Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il y a eu Vincent, François, Paul et les autres, et parmi eux, il y avait lui, Ivo Livi, connu sous le nom d'Yves Montand. Il aurait eu 100 ans cette année. Derrière son nom, celui qui fut l'un des plus grands acteurs que le cinéma ait compté, après avoir été artiste de musical et chanteur au talent débordant, et à la timidité et au trac souvent pétrifiant aussi. Stéphane Bern nous raconte Yves Montand cet après-midi.
Parler d'Yves Montand, c'est parler d'un géant, et pas uniquement parce qu'il était plutôt grand pour son époque, 1m87 tout de même, et tout en minceur élancée. Si je vous parle d'un géant, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont à ce point-là marqué leur époque, que ce soit sur scène, sur grand écran, ou par la place incroyable qu'a occupé Yves Montand dans la sphère médiatique et même politique. Pendant des décennies, des années 40 à la fin des années 80, Yves Montand a presque toujours été en haut de l'affiche, au cinéma ou en musique. Il suffit de penser à des chansons comme « Les feuilles mortes », « À bicyclette » ou « C'est si bon » pour avoir aussitôt à l'oreille cette voix chaude, pleine de soleil et de vibrato.
« C'est si bon,
oh, c'est si bon
de partir n'importe où. »
Il suffit de penser au salaire de la peur pour voir son beau visage crispé par l'angoisse et immortalisé par Henri-Georges Clouzot. Il suffit de penser à Jean de Florette et à Manon des Sources pour avoir en tête cet accent chantant du Midi, celui de son enfance qu'il avait retrouvé pour servir Pagnol en incarnant le Papet dans les deux films de Claude Berry. Il suffit de penser à son rôle dans Z de Costa Gavras pour se rappeler la place qu'Yves Montand a occupée dans les combats politiques de son temps. Lui qui a été toute sa vie ou presque un compagnon de route du communisme en mémoire de ses parents et un fervent défenseur des droits de l'homme. Et il suffit de penser au couple qu'il a formé pendant 35 longues années avec Simone Signoret pour se souvenir de ce charme à la française, à l'italienne un peu aussi, qu'il a incarné toute sa vie au point de faire un temps chavirer Marilyn Monroe elle-même. Oui, Yves Montand est un monument et, comme tous les monuments, il avait des fissures plus ou moins profondes et plus ou moins apparentes. Pour comprendre pourquoi, il faut sans doute se rappeler d'où vient Yves Montand, ou plutôt Ivo Livi, ce petit gamin italien qui naît en Toscane il y a tout juste 100 ans, en 1921, dans une famille ouvrière et militante, convaincue par les idéaux du communisme. Mais l'enfance d'Ivo ne sera pas italienne. Avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir, il ne fait pas bon être communiste en Italie au milieu des années 20. La famille émigre alors en France, à Marseille, où elle s'installe dans les faubourgs et dans les cités de fortune de la vieille cité phocéenne. Ce petit qui deviendra Montand grandit là, dans ce milieu de prolétaires qu'il n'oubliera jamais. C'est une enfance à la fois pauvre et incertaine, souvent rude. À 11 ans, Ivo fait plus vieux que son âge, alors il prétend qu'il en a 14 pour pouvoir aller travailler à l'usine et gagner quelques sous. Ce qui marque une existence et explique sans doute en partie cette inquiétude sourde qui l'accompagnera toute sa vie. Pour Ivo, l'école est surtout buissonnière. Le gamin de Marseille devient vite un grand escogriffe tout en longueur et tout en os, qui rêve de musicals et de cinéma, qui aspire à imiter ses idoles comme Fred Astaire, chanteur, danseur et acteur hors pair. Alors, il s'essaye à la chansonnette, il pousse les portes des cabarets pour y chanter du Charles Trenet, imiter Fernandel et se former au métier.
Una mattina mi son svegliato.
En 1938, Ivo est sur la scène de l'Alcazar à Marseille. Comme l'écrit son premier biographe, Patrick Rothman, dans le dernier livre dans lequel il convoque une nouvelle fois Yves Montand, sur cette scène minuscule, Ivo fait connaissance avec le trac qui l'étreint et en même temps le stimule, cette étrange alchimie d'une souffrance infinie et d'un bonheur fou. Dès lors, ajoute l'écrivain, l'angoisse est le moteur de sa vie. La guerre éclate. La France est occupée, mais Ivo Livi passe entre les gouttes, alterne entre des boulots d'ouvrier le jour, deux boulots et la scène le soir. Le voilà qui monte à Paris, prend son nom de scène et devient Yves Montand. Et sa carrière est fulgurante. Il croise Édith Piaf, vite conquise par l'artiste et par l'homme dont elle tombe amoureuse. C'est avec elle qu'il prend une autre envergure, qu'il apprend à se perfectionner encore et toujours et à travailler encore et encore pour se rassurer. Un jour, Montand confiera à Patrick Rothman « Quand une salle vous attend, il faut payer, payer avec son ventre. Il faut réussir tout de suite. Vous devez chaque soir empoigner un public différent. Il faut littéralement arracher les applaudissements du spectateur. Voilà le vrai métier. » Ce vrai métier, il le fait merveilleusement bien et sa carrière explose à des altitudes encore jamais vues. À la fin des années 40, Montand est une star plus célèbre que Maurice Chevalier, Charles Trenet ou Édith Piaf elle-même, qui en prend d'ailleurs ombrage. La fin de la décennie est déterminante pour Yves Montand qui poursuit sa carrière musicale. En 1947, il engage son fidèle pianiste Bob Castella. En 1949, il enregistre Les Feuilles mortes et rencontre Simone Signoret qui devient sa femme. 2 ans plus tard, à 30 ans, il monte un récital au Théâtre de l'Étoile à Paris qui deviendra légendaire.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
Seul en scène, il tient le public en haleine et le séduit durant 1h30 avec 22 chansons travaillées au cordeau, à force de sueur, d'acharnement et de perfectionnisme. C'est pour lui la seule façon de calmer cette trouille qui le dévore dans sa loge lorsqu'il est seul face à son reflet et qu'il sait qu'il faut y aller. Entre 1945 et 1955, Yves Montand donne plus de 1600 spectacles et bat tous les records de vente de disques. Puis il se lance sur la scène internationale avec une tournée mémorable dans les pays du bloc de l'Est avant de partir pour le pays qu'il avait tant fait rêver gamin, les États-Unis d'Amérique. Il triomphe à Broadway, se lance pour de bon dans le cinéma, quitte à délaisser de plus en plus souvent cette scène qu'il aime mais qu'il effraie tant pour lui préférer la pellicule. Yves Montand tourne sous la direction des plus grands, Sautet, Houry, De Broca, Costa-Gavras, Godard, Melville et j'en passe. Il passe de la comédie au polar, du drame à la comédie. Il crève l'écran dans César et Rosalie, Le Cercle Rouge, Vincent François, Paul et les autres ou encore La Folie des Grandeurs.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
À chaque fois qu'il remonte sur scène, même s'il se fait rare, c'est toujours le même monstre de travail mangé par l'appréhension et par le trac, obsédé du détail, capable de piquer des colères mémorables avec son équipe pour masquer la peur de ne pas être à la hauteur, de faire le spectacle de trop et de tomber du piédestal qu'il s'est construit au fil du temps. Et c'est encore en travaillant qu'il meurt d'une crise cardiaque en novembre 1991, 6 ans après sa femme Simone Signoret et quelques jours seulement après avoir achevé le tournage de IP5 de Jean-Jacques Benex. À 70 ans, le vieux boxeur avait encore des choses à dire et à chanter. Il se préparait pour un spectacle à Bercy. Autant dire, à affronter une nouvelle fois les yeux dans les yeux cette sainte trouille qui lui aura tant pris, mais tant apporté.
Europe 1, historiquement vôtre.